Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne. Avant ça, quelques infos complémentaires avec toi Léa, salut. À Pessac, pour commencer, la mairie veut démolir les logements sociaux du quartier de Sèges.
Oui, la ville de Pessac souhaite démolir les tours 3, 6, 9 et le bâtiment 11 du quartier de Sèges contre l'avis des habitants de ces tours. La métropole de Bordeaux a validé le projet de démolition qui devait coûter 211 millions selon l'architecte Christophe Hutin, spécialisé dans la réhabilitation des logements collectifs de la métropole. Mercredi dernier, la Confédération nationale du logement, Femmes Égalité, les habitants et quelques élus de l'opposition se sont réunis pour s'exprimer contre ce projet de démolition. Appuyés par l'avis de Christophe Hutin, toutes et tous souhaitent un projet de réhabilitation des logements et la rénovation des parties insalubres, comme cela a pu être fait auparavant dans le quartier du Grand Parc. Dans le journal Sud-Ouest, les habitants expriment leur attachement à ce quartier et à son mode de vie. « On ne comprend pas, je cite, pourquoi la mairie veut démolir alors qu'il y a un manque de logements sociaux et qu'il n'y a pas... Et qu'il y a encore trop de gens qui dorment dans la rue, pardon. Pourquoi détruire au lieu de rénover ? Malgré l'accord de la métropole de Bordeaux, les habitants comptent bien se mobiliser contre ce projet de démolition. Une nouvelle réunion avec Christophe Hutin aura lieu en septembre.
À Bordeaux, la police nationale mobilise un bus pour faire face aux demandes de procuration pour les élections législatives.
Oui, les commissariats de la ville de Bordeaux ont recensé un taux record de demandes de procuration ce dimanche 16 juin, dont 800 procurations pour le commissariat central de Mériadec. Pour faire face aux files interminables, la police nationale a mobilisé un grand bus afin de superviser les démarches. Le commissariat de Chartrand-Grand Parc a également dédié un bureau spécialement aux demandes et les communes de la métropole ont vu leurs chiffres augmenter. Selon Rue89, la ville de Mérignac a doublé ses procurations en comparaison aux élections européennes et Bègles et Lormont voient aussi leurs démarches augmenter. À l'échelle nationale, entre le 10 et le 16 juin, on recense 6,5 fois plus de procurations que pour les élections européennes. Et pour rappel, les demandes de procuration se font par voie dématérialisée ou version papier à adresser au commissariat de votre circonscription. Si vous n'avez pas d'électeur pour faire votre procuration, vous pouvez vous renseigner sur les sites officiels des partis du Nouveau Front Populaire qui mettent en place des relais et des électeurs pour faciliter les démarches.
Une rectification des chiffres du sans-abrisme, Léa.
Oui, hier, on annonçait les chiffres de la forte hausse des personnes sans-abri recensées par la Nuit des Solidarités à Bordeaux, qui gagne à être détaillée puisque c'est 1079 personnes sans-abri sur la commune de Bordeaux et non 840 comme annoncé ce mardi. En effet, le journal Sud-Ouest détaille 466 personnes qui vivent dans la rue ou dans les campements, 374 personnes dans des bidonvilles dont 202 mineurs, 72 personnes déjà recensées dans le bidonville de Dangeard, à Bordeaux-Lac, et 107 personnes dans différents squats de la commune. Selon le Sud-Ouest toujours, 60% des sans-abri disent ne pas être accompagnés par un travailleur social et 41% des habitants des bidonvilles n'ont aucune couverture sociale.
On a appris la mort de Moïse Skinazi à l'âge de 93 ans.
Il était le fils de Sabatino Chinazi et se battait pour obtenir la réhabilitation de son père, médecin des pauvres, déporté à Auschwitz. Le docteur Sabatino Chinazi avait été victime d'un acharnement par l'ordre des médecins, qui était alors sous la coupe de l'Action française. L'ordre des médecins l'avait alors décrit comme étant d'origine étrangère, avec, je cite, une mauvaise réputation, des mauvaises fréquentations, dans un quartier ouvrier avec des éléments qui ont fait tant de mal à la France. Fin de citation. Amaigri, affaibli, il meurt en 1945, deux jours après sa libération du camp d'Auschwitz. Le destin de Sabatino Chinazi avait ressurgi lors du procès Papon en 1998. Son fils Moïse et le docteur Bernard Coadou ont alors entamé un long combat pour obtenir sa réhabilitation par l'ordre des médecins. Promise, mais toujours pas effective.
Et puis un mot de la lutte contre les LGV.
L'enquête publique environnementale des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux se lance le 24 juin prochain pour un mois. Les collectifs d'opposants comptent profiter de cet espace pour rétablir les faits, exposer les manquements profonds du projet. Une réunion d'information qui a lieu ce soir, mercredi 19 juin, par Alternative LGV Bordeaux Sud, à la salle des fêtes de Cadojac, à 18h. Plus d'infos sur lgvnonmerci.fr.
Merci beaucoup Léa, et j'ajoute juste que le collectif Bordeaux Nord et les associations du quartier Chartron-Nord-Saint-Louis organisent une fête de quartier, ça s'appelle l'été en Nord, c'est la fête annuelle du quartier. Ce sera sur 2 jours, le vendredi 5 et le samedi 6 juillet 2024. Et le collectif Bordeaux Nord lance un appel à bénévoles, besoin d'aide pour organiser cette nouvelle édition. Chaque bénévole est bienvenu, quel que soit son âge et son expérience. Vous serez auprès d'une petite équipe solidaire, engagée et bienveillante, nous disent-ils, pour mettre en œuvre et animer cette fête ouverte à tous et gratuite. Pour devenir bénévole, vous pouvez contacter le collectif Bordeaux Nord à l'adresse mail été-en-nord@bordeauxnord.org ou en les appelant sur leur numéro de téléphone que vous trouvez sur leur site internet et que je redonne, c'est le 05 56 43 53 08. Voilà, merci pour eux. 12h16 sur la clé des ondes, la campagne pour les élections législatives est maintenant bien lancée, campagne courte. On recevra des candidats et candidates du nouveau Front Populaire dans les jours à venir dans notre émission. Mais aujourd'hui, on a choisi de s'intéresser au monde associatif, monde sportif, culturel, qui se mobilise aussi ces jours-ci pour empêcher que l'extrême droite n'arrive au pouvoir. On a en studio 2 invités, on en aura un par téléphone pour nous parler de tout ça. Mais avant de leur donner la parole, j'accueille nos stagiaires chroniqueurs de la semaine, Camilla Navera-Winkler et Victor Mialon-Richard. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors, vous êtes intéressé aux personnalités qui prennent position depuis une semaine, des personnalités qui vous parlent et qui vous touchent, vous en tant que jeune. Camilla, pour commencer, quels sont les influenceurs qui ont pris position sur les réseaux sociaux ?
Eh bien, certains influenceurs ont fait appel à faire barrage contre l'extrême droite, ce au risque de s'exposer à de la haine, comme l'ENA Situation, suivie par 4,4 millions de personnes, en incitant à aller voter et à encourager ses proches à aller voter. On cite contre l'extrême droite et contre l'intolérance, et s'est fait traiter de bougnoul à de maintes reprises, ou Mister V qui a republié un post en story en incitant à aller voter, et on cite encore « pas pour des faves de merde », faves désignant la France aux Français, ce sont donc des militants d'extrême droite, et si la forme n'est pas louable, le fond est entièrement compréhensible. L'influenceur Squeezie, numéro 2 des influenceurs français avec 8,8 millions d'abonnés, n'est, lui, pas habitué à prendre position. Mais le 14 juin 2024, il fait sa première prise de parole en politisé de manière complètement inattendue. Celle-ci prend la forme d'une lettre ouverte à tous les jeunes qui le suivent. Il appelle à faire barrage à l'extrême droite en évoquant le fait que le Rassemblement National est un parti discriminant, fondé par des idéologistes nazis et ayant voté contre la revalorisation du SMIC, contre la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité, etc. Et en s'appuyant sur l'histoire pour qualifier les conséquences d'un parti d'extrême droite au pouvoir comme désastreuses. Une prise de parole complètement inattendue, d'autant plus en prenant en compte le fait qu'il prenait le risque de perdre beaucoup d'abonnés, ce qui s'est produit bien que son poste ait été massivement republié. D'autres influenceurs préfèrent encourager leurs abonnés à faire leur propre choix avec leurs convictions, et c'est le cas de l'influenceur francophone le plus suivi avec 9,7 millions d'abonnés, Thibaut InShape, qui, soit dit en passant, a été accusé à de nombreuses reprises de promouvoir des idées d'extrême droite, comme par exemple l'islamophobie. Il a par exemple dit le 24 janvier 2012 « Moi, quand je suis énervée, je jette des côtes de porc sur les musulmans. C'est quoi ? C'est cool, ils brûlent. » Il est aussi critiqué pour avoir tenu des propos racistes et homophobes. Le 7 novembre 2012, un noir réélu, le mariage homosexuel adopté, ce ne sera pas une journée facile. Et d'autres formes de discrimination suite à plusieurs autres posts publiés entre 2009 et 2012, tout en tenant une espèce de double discours, prônant un monde plus tolérant et bienveillant.
Et alors, on a aussi beaucoup parlé, Camilla, ces derniers jours, de la présence de Bardella sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une vraie stratégie derrière cela ?
Oui, bien sûr, c'est pour cette raison qu'il a répondu à Squeezie au plus vite, d'ailleurs. Mais lorsqu'on explore le compte de Bardella, Instagram comme TikTok, on peut constater une volonté de s'inscrire dans les mœurs des jeunes. Et cette volonté se traduit par des montages incluant des références liées à des personnalités connues, comme Orelsan, ou avec des musiques populaires en fond de ses prises de parole, comme Another Love, ou d'autres tout autant virales. Ce qui fonctionne relativement bien, puisque le RN est le parti le plus suivi en France, avec 1,6 million d'abonnés.
Merci Camilla. Victor, de ton côté, tu t'es intéressé aux footballeurs. Comment ont-ils pris position ces derniers jours ?
Eh bien, ils ont pris position notamment par l'intermédiaire de Marcus Thuram. Marcus Thuram a pris la parole concernant les élections législatives à venir du 30 juin en conférence de presse après le match France-Canada dimanche dernier. L'attaquant de l'équipe de France a incité les citoyens à voter contre le Rassemblement national. Il a parlé au nom de l'équipe qui était, je cite, « sous le choc » à la fin du match amical. Et quand ils ont appris les élections, le résultat des élections européennes. Il a qualifié la situation politique en France de « triste et grave » et dénonce les émissions de télé qui font passer des messages quotidiennement dans certaines émissions de télé pour aider cette idéologie-là. Et il incite les citoyens à se battre pour empêcher une élection du RN. Avec Kylian Mbappé, Marcus Thuram est le seul joueur de l'équipe de France à avoir pris la parole concernant ces élections. Cela s'explique notamment par l'engagement de son père Lilian, qui lutte depuis sa retraite professionnelle contre le racisme, avec notamment la publication d'un livre intitulé « Mes étoiles noires » de Lucie à Barack Obama.
Un exemple plus ancien d'engagement dans le monde du foot ?
Oui, effectivement, quand on pense à un engagement politique dans le foot, on pense aussi à Socrates et l'équipe des Corinthians au Brésil. Tout commence dans les années 80. Le Brésil est à ce moment-là une dictature. Et le club des Corinthians, basé à Sao Paulo, se voit relégué en seconde division brésilienne. La relégation va entraîner une crise au sein du club et l'équipe dirigeante est remplacée. On nomme alors un sociologue au poste de directeur sportif. Et ce nouveau directeur sportif ne connaît rien au foot, mais va donner la parole aux joueurs sur la meilleure façon de gérer le club. Cette philosophie nouvelle et insolite, dans une époque où le football est sous la coupe de la dictature et où les joueurs sont souvent mal payés, va vite faire effet, notamment sur Socrates, l'attaquant de l'équipe, qui est très politisé. Cette démocratie interne créée par le club va être répandue dans tout le Brésil grâce aux initiatives des joueurs, comme des flocages pour inciter la population à aller voter lors de la première élection démocratique du gouvernement en 1982, mais aussi avec une banderole devant 88 000 personnes pendant une finale au Brésil avec l'inscription « Gagner ou perdre, mais toujours avec la démocratie ». Après 5 ans de lutte pour la démocratie, Socrates annonce son départ du Brésil si la prochaine élection ne se déroule pas au suffrage universel. Il n'obtint pas gain de cause et fit ses valises vers l'Italie et la Fiorentina. Puis la démocratie interne du club disparut en 1985, tout comme la dictature au Brésil.
Merci beaucoup Victor, merci Victor et Camilla pour ces chroniques qui posent bien les enjeux et la situation de l'engagement dans le monde du sport et dans le monde plus globalement des médias dans ce contexte politique. J'accueille maintenant autour de la table deux invités, Zoubir Sayoud. Bonjour Zoubir.
Bonjour à vous tous.
Tu es éducateur sportif à l'association La Flèche à Saint-Michel. Et puis Pauline Gobini, bonjour Pauline.
Bonjour.
Tu es administratrice, on peut dire, du label Babor.
Co-présidente
même. Merci à toi aussi d'être là. Et puis on est au téléphone avec Nicolas Escorne. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Toi, tu es salarié de la FSGT, la Fédération Sportive et Gymnique du Travail. Peut-être commencer en deux mots avec toi, puisque tu as pas énormément de temps à nous consacrer. La vie suit son cours et les entraînements suivent leur cours. En deux mots, la FSGT, Fédération Sportive et Gymnique du Travail, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, Nicolas ?
Alors, avant de dire ce que c'est aujourd'hui, on va peut-être faire un petit bond dans l'histoire. C'est les premiers clubs sportifs ouvriers ont été créés en 1907. Donc c'est la SFIO à l'époque, section française de l'International ouvrier, qui décide de créer des clubs sportifs. La Fédération sportive et gymnique du travail, elle, voit le jour en 1934. Dans la charte constitutive, il est bien question de les mouvements sportifs ouvriers ne seraient restés divisés face à la montée du fascisme en Europe. Donc notre histoire est complètement liée au mouvement antifasciste. Et dès 1936, la FSGT va se positionner, puisqu'on avait parlé ensemble, Baptiste, aussi des Jeux Olympiques. Dès 1936, la FSGT va se positionner contre les Jeux Olympiques à Berlin et pour des Olympiades populaires à Barcelone, qui ne verront pas le jour, puisqu'il y aura eu le coup d'État de Franco.
On reviendra un peu sur tout ça, mais pour faire le parallèle jusqu'à aujourd'hui, vous êtes un certain nombre de clubs, c'est ça, rattachés à cette FSGT et à pratiquer de manière amateur plein de sports différents, c'est ça ?
Tout à fait. Alors la FSGT aujourd'hui fête ses 90 ans. Au niveau de la Gironde, on est à peu près une quarantaine de clubs et suivant les années entre 1500 et 2000 licenciés. Parmi les clubs, il y a le club de la Flèche et parmi les licenciés, il y a Zouïder. Au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, on est une centaine de clubs et à peu près 6000 licenciés. Donc on est une fédération qu'on appelle Omnisport, donc on peut pratiquer plusieurs activités avec la même licence. Et on essaie de garder, on appelle ça aussi affinitaire, et notre affinité donc est liée au monde du travail et à tout ce mouvement ouvrier.
C'est-à-dire, ça passe par quoi cette affinité concrètement ?
Alors, il y a toute une politique internationale avec des projets en Palestine. Dans les années 80, il y avait aussi avec des fédérations non raciales en Afrique du Sud. Pédagogiquement aussi, c'est des activités un petit peu innovantes telles que le foot à 7 auto-arbitré, actuellement le walking foot. Et sur le côté pédagogique aussi, apprendre à l'escalade en montant en tête plutôt qu'être en moulinette. Donc une pratique où on élimine le risque, alors que le but, c'est quand même de jouer avec.
Alors, la FSGT a publié un communiqué la semaine dernière, je crois, le sport populaire mobilisé face à l'extrême droite, qui dit notamment que la FSGT soutient toutes les initiatives et manifestations citoyennes, associatives, syndicales et politiques qui permettront d'enclencher un puissant élan de résistance et de changement. D'où vient cet engagement de votre côté ? Pourquoi vous mobilisez et quel rôle vous avez envie ou vous pensez que vous devez tenir dans une situation comme celle-là, Nicolas ?
Alors, ça fait débat un petit peu au niveau de la Gironde, mais c'est vrai que l'appel a été lancé. Comme j'ai fait le parallèle tout à l'heure avec l'histoire de la création de la FSGT, donc on peut pas être insensible à la situation actuelle. J'ai une citation là de George Orwell qui résonne un petit peu, qui disait la première leçon de l'histoire, c'est que les hommes ne tirent pas de leçon de l'histoire. Et c'est vrai que je suis très attristé de la situation actuelle et en même temps, on l'a senti venir. Je pense que ça fait un petit moment quand même qu'on sent le danger se rapprocher, qu'on essaie de faire barrage. Mais j'ai le sentiment que si on n'arrive pas à faire de la politique autrement, à responsabiliser les gens, à que la démocratie se limite pas uniquement au temps de vote, on n'arrivera pas à faire un vrai barrage dans le temps.
On va revenir là-dessus. Qu'est-ce que tu crains, qu'est-ce que vous craignez à la FSGT dans les clubs si l'extrême droite arrivait au pouvoir ? Concrètement, quelles conséquences ça pourrait avoir sur vos activités, sur votre pratique ?
Alors le pire est à craindre parce que forcément la FSGT depuis le départ dit que le sport est politique alors qu'on entend un discours un peu opposé, même s'il y a un sursaut aujourd'hui. La phrase « il faut pas mélanger le sport et la politique », on l'entend très souvent. Et donc voilà, le risque effectivement c'est des formes de discrimination vis-à-vis d'un mouvement qui se caractérise aussi par son ouverture avec des clubs LGBT, avec et puis mais par contre la contrepartie, je dirais, c'est que ça donne beaucoup de sens à notre projet de créer du lien social, de pratiquer des activités ensemble, tout ça prend beaucoup de sens dans la société actuelle où finalement l'individualisme poussé à bout pousse à la peur de l'autre et qu'on appelle aussi la xénophobie, je crois.
Justement, on parle souvent de l'importance des clubs sportifs comme des endroits de lien qui permettent de diffuser des valeurs, de faire du lien social, voire même peut-être de l'éducation populaire, voire de l'éducation populaire politique. Ça dépend des manières dont on voit tout ça. Est-ce que ça, tu as l'impression que vous arrivez encore à le faire dans les clubs de la FSGT, et dans quelle mesure c'est un frein un peu au quotidien à la montée de l'extrême droite et un atout peut-être pour le développement de la démocratie?
Oui, pour nous, l'enjeu, c'est de former un site, notre adhérent qu'on souhaite former. Il vient comme il est. On n'arrive pas à la FSGT avec des idées, un engagement politique. À une époque, c'était le cas, c'est plus le cas aujourd'hui. Les gens viennent comme ils sont, ils viennent pratiquer une activité. Par contre, notre objectif, c'est de former un citoyen au service d'une république laïque et démocratique. C'est dans l'article 1 de nos statuts. Et on dit aussi un pratiquant autonome, responsable et associatif. Donc vraiment, l'enjeu, c'est de créer ce lien, de responsabiliser les gens et de faire vivre cette démocratie dans nos clubs au quotidien. Là, le petit exposé sur la façon de vivre le club de foot brésilien à l'époque de Socrates, c'est on essaie de faire vivre ça au quotidien dans nos associations et dans nos structures déconcentrées de la FSGT.
Et là, donc, dans cette situation d'urgence où il reste 10 jours avant une élection législative assez importante, assez cruciale, quel rôle est-ce que toi, alors tu disais ça fait débat, mais c'est un appel à aller voter dans tous les cas, à participer à ce moment-là? Comment vous voyez un peu ce sentiment d'urgence et de devoir agir dans cette urgence-là, Nicolas?
Oui, alors, vous avez compris que je ne suis pas du tout comme Thibaut Inchep, là, même si c'est un collègue. Moi, je faisais de l'haltérophilie, donc moi, je considère que le sport est politique et je ne voudrais absolument pas que la vie démocratique s'arrête au temps des élections. Il faut vraiment qu'on aille plus loin que ça et que les gens se responsabilisent au quotidien et tous ces espaces de liberté où on peut s'impliquer, que sont la vie associative, que sportive, mais autres. Enfin, je sais que j'ai habité pendant des années dans un quartier populaire où le jardin partagé, c'était aussi pour moi un projet très politique. Après, c'est comment on peut amener les gens à prendre conscience de tout ça. Et bien sûr qu'il faut qu'ils se mobilisent pour cette élection, mais il faudrait que ça change plus durablement. Enfin, je crois que le message que je veux envoyer aujourd'hui, c'est ça. C'est que ça ne s'arrête pas à l'élection, quoi. Et y compris la vie associative peut être un contre-pouvoir dans certaines situations et des gens unis peuvent changer beaucoup de choses.
Eh bien, merci beaucoup Nicolas pour ce que tu viens de nous dire. Nicolas Escorn, donc, je rappelle, salarié de la FSGT, la Fédération Sportive et Gymnique du Travail en Gironde. On te laisse retourner justement à ces activités-là et puis on te dit à bientôt sans doute pour reparler de tout ça et du reste et des JO notamment si ce sujet-là ne disparaît pas au milieu de cette actualité politique chargée. Merci beaucoup Nicolas.
Merci à vous.
Je vais tout de suite peut-être faire réagir Zoubir Sayoud, toi qui du coup fais partie aussi de la FSGT à ton niveau avec La Flèche à Saint-Michel où tu es éducateur notamment dans la boxe. Peut-être une réaction à tout ce que vient de dire Nicolas et comment toi tu te positionnes sur tout ça?
Oui, tout à fait. Bonjour à vous tous. Tout ce qu'il a dit Nicolas est vrai et il faut vraiment qu'on fasse qu'on réagisse tous ensemble afin que l'extrême droite ne passe pas, n'ait pas la majorité prochainement. Donc pour ça, ce qu'il a dit tout à l'heure, ça, il y aura des conséquences énormes sur toutes les associations, que ça soit culturelles ou sportives, parce que j'ai écouté un petit reportage hier. Il y avait le planning familial qui ont contesté, qu'ils ont fait appel à voter contre l'extrême droite et contre le Front National. Donc leur réaction était rapide parce qu'il y a eu une réponse aussitôt en disant que prochainement, s'ils n'ont pas besoin de nous, ils n'auront plus de subventions. C'est un exemple concret que j'ai écouté. Bon, et ça s'est véhiculé un petit peu dans toute notre société, sur le plan national. Donc voilà, c'est pour moi c'est un drame, hein. C'est un drame qui pointe, et donc je voulais absolument venir intervenir auprès de vous et auprès de toutes les personnes qui apprécient l'un qui Simon, donc.